autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Antonio Fischetti.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage très original à la rencontre des animaux. Nous allons les suivre à la trace en remontant leurs empreintes, leurs odeurs, leurs sons, quitter nos habits d'occidentaux pour se retrouver dans la peau d'un chasseur de société traditionnelle. C'est ce que fait notre invité, qui est à la fois pisteur d'animaux et philosophe. Il remonte les traces des ours, des panthères, mais aussi des oiseaux et des vers de terre. Puis, il s'en inspire pour apporter un nouvel éclairage sur notre relation au monde vivant. Et nous sommes tous concernés, même si nous habitons en ville. Bienvenue dans cette promenade sur la piste animale avec le philosophe Baptiste Morisot. Baptiste Morisot, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes écrivain et maître de conférences en philosophie à l'université d'Aix-Marseille et vous venez de publier Sur la piste animale, un livre aux éditions Actes Sud. Donc vous aviez déjà publié un précédent ouvrage sur les loups qui s'appelle Les diplomates et qui a reçu plusieurs prix. Le prix du livre de la Fondation de l'écologie politique, le prix littéraire François Sommer du meilleur ouvrage sur la nature. Donc vous êtes à la fois philosophe, c'est votre métier, et en même temps, vous suivez des animaux dans la nature. Alors, de quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, pister, c'est une certaine manière d'aller se promener, si vous voulez, une certaine manière d'être dehors. Et toute l'idée, c'est plutôt que de profiter des paysages, c'est plutôt de se rendre sensible aux indices, aux traces, aux détails révélateurs de la vie et des comportements des autres animaux.
Donc, vous racontez vos souvenirs de pistage. Vous êtes allé au Kyrgyzstan suivre la panthère des neiges, en Slovénie, en Amérique du Nord et aussi dans les montagnes françaises, les Alpes ou les Pyrénées, pour suivre l'ours et le loup. Mais comment en êtes-vous venu au pistage? Vous étouffiez dans les bibliothèques avec les livres de philosophie?
Disons que j'avais toujours un intérêt particulier pour les pratiques d'extérieur, mais que longtemps c'était déconnecté de mon travail philosophique. Et j'ai commencé à réfléchir sur la question de l'animalité et sur les questions d'écologie en philosophie. Et ça m'a permis de retourner sur le terrain où j'ai appris avec des ingénieurs écologues les bases du pistage. Et puis ensuite, c'est devenu presque... c'est devenu une habitude qui m'a fasciné. Et donc, j'ai appris sur le terrain avec des manuels, des guides, et puis du temps.
Oui, alors on va y revenir sur ces techniques de pistage, mais disons auparavant, pour comprendre ce lien entre ces deux mondes a priori totalement différents, donc d'une part la philosophie, d'autre part le pistage des animaux comme les Amérindiens, comme des chasseurs de sociétés traditionnelles, ce sont deux mondes complètement différents l'un et l'autre, et pourtant... Pour vous, il y a des liens, vos travaux de recherche en tant que philosophe se nourrissent de cette expérience de terrain, ça paraît assez surprenant.
Ah bon? Eh ben non, je peux essayer de vous expliquer un peu.
Un philosophe, on l'imagine au milieu des livres avec Kant, Nietzsche, etc. On l'imagine pas quatre pattes dans la boue en train de renifler des crottes de loup.
C'est pas faux, mais ça dépend quel est le problème théorique et pratique qu'on se pose en tant que philosophe. Moi, les problèmes qui m'animent depuis maintenant plusieurs années, c'est ceux qui caractérise la crise écologique contemporaine. Et donc, c'est ceux de nos rapports au vivant, des problèmes posés par notre rapport au vivant. Et en l'occurrence, il y en a un qu'on peut formuler assez simplement, c'est ce que j'appelle la crise de la sensibilité. C'est l'idée que la crise écologique aujourd'hui, c'est effectivement une crise de la biodiversité, c'est une crise des sociétés humaines qui sont fragilisées par l'instabilité climatique, mais c'est aussi une crise de notre sensibilité au vivant. Et donc, toute la question devient comment est-ce qu'on peut reconstituer des chemins de sensibilité pour se rebrancher sur un monde vivant dont, je dirais, avec lequel on a massivement perdu contact.
Alors justement, donc, sur la piste animale, autour de la question « Pourquoi pister des animaux ?» avec le philosophe Baptiste Morisot. Pour se plonger encore plus dans l'ambiance, eh bien partons avec des pisteurs d'animaux en Australie.
La mythologie du Kalahari, les bushmen, le pistage, tout cela me fascine depuis mon enfance. Il y a comme un gigantesque mystère dans cette étendue sauvage. Si les empreintes semblent évidentes et faciles à suivre, elles comportent en fait des subtilités et des variantes assez complexes.
Pour être capable de prévoir les déplacements d'un animal, les pisteurs doivent connaître et son environnement et l'animal lui-même, au point de pouvoir s'identifier à lui. Il faut qu'ils puissent visualiser comment il se déplace, comment il bouge et où il se dirige. Ils doivent devenir cet animal.
L'art du pistage est sans doute la plus ancienne des sciences. Il remonte à des centaines de milliers d'années. L'intelligence moderne s'est développée à l'époque où les hommes étaient encore des chasseurs-cueilleurs. Notre cerveau, qui a évolué alors que nous vivions de chasse et de cueillette, est aujourd'hui capable de faire de la physique et des maths. Les vastes connaissances et l'expertise que possèdent les plus vieux pisteurs se perdent tout simplement parce qu'elles ne sont pas reconnues.
Baptiste Morisot, ça vous évoque quoi, cet extrait de film ?
Ben, ça me parle. Vous savez qui est la personne qui parle, là, qui est doublée ?
C'est un pisteur, enfin disons un traditionnel, c'est quelqu'un qui va chasser des animaux.
Ses idées sont assez pointues sur la question, parce que c'est l'anthropologue Louis Liebenberg qui le premier développe cette idée assez fascinante, suivant laquelle nos capacités intellectuelles, nos capacités de réflexion trouvent leur origine dans le pistage.
Oui, on y reviendra tout à l'heure, mais justement on va développer ça un petit peu plus tard, mais auparavant vous écrivez dans votre livre que dans la tradition occidentale, nous avons un rapport appauvri au vivant, et donc cela questionne justement cette évolution entre cette dichotomie, c'est entre Absolument. D'une part les sociétés traditionnelles pour lesquelles il y a encore ce rapport étroit avec le monde vivant, et puis de notre société d'aujourd'hui où nous l'avons perdu d'une certaine façon.
Oui, alors je pense que c'est très compliqué cette question, mais il y a des données qui sont assez fascinantes de ce point de vue-là. Par exemple, je suis tombé sur une étude il y a quelques temps qui montre que les adolescents américains entre 10 et 14 ans sont capables de reconnaître en une fraction de seconde plus de 1000 logos de marques différenciées, et ils sont pas capables d'identifier 10 feuilles d'espèces de végétaux de leur région. Donc ça, il me semble que c'est un symptôme assez intéressant de ce que c'est qu'une crise de la sensibilité. Alors bien sûr, on peut l'expliquer par le fait que, d'un point de vue sociologique, on s'est massivement urbanisé, on vit en ville, mais je crois qu'il y a autre chose. Il y a aussi le fait que philosophiquement, on hérite d'une tradition qui nous a seriné qu'il n'y avait rien à voir dans la nature. Que la nature, c'était un lieu de ressourcement spirituel ou un lieu de performance sportive, mais pas un lieu de décryptage, visibilité.
On a perdu l'habitude, justement, de lire ces signes, ces indices. Ouais. C'est ce que vous faites, vous appelez à retourner à cet apprentissage, puisque c'est ça, c'est une lecture de la nature.
C'est ça, c'est l'idée qu'il y a de la signification. Et nous héritons dans la culture occidentale moderne de l'idée selon laquelle il n'y a pas de signification dans la nature. C'est déjà chez Galilée lorsqu'il dit que le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. La seule chose que vous pouvez y lire, c'est des triangles, des cercles ou des lois universelles.
Oui, mais pas des feuilles, des traces, des odeurs, des sons.
Alors, et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à perdre cette idée que le vivant est gorgé de signification. Et le pistage, ça n'exige pas du tout d'expertise, c'est simplement se mettre sur le chemin de recommencer à lire et de partager ces significations avec les vivants qui sont là.
Et vous dites justement que souvent ces signes sont invisibles, en tout cas invisibles à première vue, puisqu'on ne sait pas les voir, il faut les chercher pour les décoder.
Alors ce qui est très juste dans cette affaire, c'est que le pistage n'est pas du tout spectaculaire. Il y a peu de choses à voir au début. Au début, on ne voit rien. Et puis, lorsque petit à petit, on commence à réapprendre à lire et à décrypter les indices, il y a des milliers de signes qui se lèvent et qui repeuplent ces espaces au point que parfois, c'est épuisant. Et moi, j'ai un souvenir qui est assez drôle. C'est souvent, en fin de journée, en fait, on en a marre. Et on veut arrêter, on est tellement submergé par la quantité d'indices qu'on dit « Ah non, cette piste-là, je veux plus la suivre. »
Les indices, c'est par exemple, vous trouvez un pas ici d'animal, un pas de sanglier un chevreuil ou un cerf qui s'est gratté le dos sur tel ou tel arbre.
Absolument, de tout, des indices animaux, donc que ce soit des pistes, que ce soit des marquages sur les arbres, des marquages dans le sol, que ce soit des chants d'oiseaux ou même certains comportements des végétaux qui sont intrigants.
Il y a même trop d'indices finalement,
Exactement.
D'une certaine façon.
À certains moments, c'est épuisant, on a envie de dire stop, allez, maintenant j'ai envie de me reposer et de profiter un peu de la nature.
Eh bien, on va se reposer quelques minutes avec Michel Delpech, les pieds dans la boue et la tête dans les étoiles, avec Le Chasseur.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains. Un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs.
Autour de la question sur la piste animale avec Baptiste Morisot, philosophe. Donc Baptiste Morisot, cette chanson de Michel Delpech résonne en vous ?
Oui, ça me rappelle des souvenirs.
Oui, donc alors même si l'on n'est pas chasseur, hein, il y a quelque chose d'universel dans le pistage des animaux d'une certaine façon, puisque donc pour vous c'est tout un rapport avec le monde vivant qui est en jeu. Vous écrivez par exemple que Sherlock Holmes, le détective, n'est qu'une forme extrême du primate pisteur qui est notre ancêtre.
Oui, il y a cette idée que il s'agit de décaler les pratiques du pistage vers autre chose que, je dirais, ce qui semble sa fonction évidente, parce que c'est des pratiques qui viennent la plupart du temps de la chasse. Moi, ce qui me fascine, c'est de...
Ouais, vous n'êtes pas chasseur, vous
pas
les suivez pour le plaisir d'aller à leur rencontre.
Ouais, c'est même au-delà qu'une question de plaisir, c'est ce que j'appelle un problème géopolitique. Alors, ça peut paraître bizarre, mais je crois que ça ne l'est pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour apprendre à vivre à plusieurs dans un monde partagé, pour apprendre à vivre avec des formes de vie différentes, il faut comprendre leur comportement, il faut comprendre comment elles existent, il faut comprendre comment elles font territoire. Et donc, c'est de ce point de vue-là que, pour moi, le pistage a une fonction géopolitique. Il s'agit de savoir qui habite ici, comment il habite,
oui,
et comment on peut composer des habitudes ensemble.
Vous dites aussi, depuis les années 1960, nous cherchons une vie intelligente dans l'univers, alors qu'elle existe sous des formes prodigieuses sur Terre, parmi nous, sous nos yeux, mais discrète d'être muette.
Oui, ça me fascine cette idée, parce que on voit bien dans cette histoire de la recherche de vie intelligente sur des exoplanètes, ce vecteur de civilisation de la modernité qui a dû nous faire croire qu'il n'y avait que de la matière morte autour de nous. Au point même que vous voyez la série Star Trek où la NASA pense que le seul endroit où on peut trouver des choses, des formes de vie intelligentes, c'est à des millions de kilomètres d'ici. Aujourd'hui, il suffit de regarder un peu d'éthologie, les derniers livres sur les arbres et leur capacité de communication, ou sur les capacités cognitives des bactéries, ou sur l'intelligence des pieuvres, pour se rendre compte que cette vie intelligente, elle est partout autour de nous, et que le grand problème de la crise écologique, c'est d'apprendre à cohabiter avec eux.
Et alors, donc, vous-même, vous avez grandi à la campagne parmi les animaux pour allier la philosophie qui est votre métier aujourd'hui à cette source de réflexion.
J'ai grandi, oui, on peut dire à la campagne, pas loin des montagnes, dans le sud-est de la France, pas loin des Préalpes. Et donc, j'avais déjà à cette époque beaucoup de pratiques naturalistes, en tout cas de pratiques d'extérieur. Mais finalement, j'étais très longtemps aveugle et je considérais que la nature était une sorte de terrain de jeu. Et il m'a fallu du temps avant de me rendre sensible aux autres formes de vie qui y habitent.
Donc c'est un loisir au départ, hein, le pistage d'animaux.
Ouais.
Vous y êtes venu grâce à un ami philosophe qui vous a parlé d'une association qui piste les loups.
Ouais.
Et ensuite, dans un second temps, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des liens avec votre métier de philosophe.
Oui, exactement. Et que ça enrichissait ma pratique. Et même que ça transformait ma manière de faire de la philosophie. Aujourd'hui, mes méthodes de travail sont en partie hybridées par le pistage. Cette manière, par exemple, de chercher des détails révélateurs, de chercher des indices de structures invisibles. Maintenant, je fais ça en philosophie.
Donc même dans les livres, en fait, vous pistez les informations dans les ouvrages, en fait.
Exactement.
Avec des techniques de chasse. Enfin, pas de chasse, de pistage,
oui,
disons.
C'est ça.
Voilà, que peuvent utiliser les chasseurs, mais pas forcément. Alors, enfonçons-nous encore un peu plus sur les traces des animaux avec cet extrait de La Minute Nature du biologiste et journaliste Julien Perrault.
Tiens, tiens, dans cette ornière, des empreintes caractéristiques. Deux sabots à l'avant, et puis deux trous à l'arrière, qu'on appelle des gardes, mais qui ne s'impriment pas toujours. Cette trace, elle s'inscrit dans un rectangle. Peut-être que c'est celle d'un chevreuil, ici un beau mâle, ou même peut-être celle du roi de la forêt, le cerf. Alors, comment est-ce qu'on va distinguer les deux? La taille, évidemment. Ici, c'est petit, et donc, c'est clairement du chevreuil. Souvent, sur un sol un peu meuble, le cerf imprime sa patte arrière exactement dans l'empreinte de la patte avant. Ici, la patte arrière est décalée à l'extérieur. C'est une biche, une femelle, qui a le bassin un peu plus large pour donner naissance à son fond. En automne surtout, le cerf marque la végétation en écorçant les troncs avec ses bois. Ici sur un pin sylvestre, l'écorce est arrachée et puis parfois, dans la résine qui suinte, on peut trouver collés quelques poils du cervidé qui est venu s'y frotter. À propos de tronc, ce bouleau-là, il est crépi de boue à sa base. Juste à côté, la boue de cette flaque a été retournée. On imagine qu'un animal s'est vautré dans cette souille, puis qu'il s'est frotté contre le tronc. Sa trace est caractéristique. Il y a aussi deux sabots, mais des gardes tournés vers l'extérieur, avec une forme générale trapézoïdale. C'est le sanglier qui aime se rouler dans les flaques pour se rafraîchir et pour emprisonner et étouffer ses parasites dans la boue. Tout près, il y a des endroits où il est venu jouer du groin dans la terre pour manger des bulbes ou des vers. Et puis le soir, il y a un renard qui passe près de la souille et qui dépose un marquage invisible. Alors cette trace, renard ou chien? Si la trace est allongée et que vous arrivez à tracer un trait entre les deux pelotes médianes et la pelote arrière, c'est un renard à coup sûr. Là, le trait empiète sur la pelote arrière. C'est du chien.
Baptiste Morisot, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, vous savez lire et reconnaître toutes les empreintes d'animaux?
Disons que j'essaie. Après, ce qui est intéressant dans le pistage, c'est qu'il faut... Il faut aussi accepter une forme d'humilité un peu constitutive, c'est qu'on se trompe très souvent. Parce que le vivant varie tout le temps, le vivant est intrinsèquement de la variation. Et donc, il faut savoir suspendre son jugement et dire sereinement qu'on ne sait pas. Ça, ce qui est raconté là, c'est les bases du pistage, c'est donc identifier les espèces. Après, moi, ce que je trouve plus intéressant dans le pistage, et le moment où ça dépasse les traditions naturalistes plus classiques, c'est quand on reconstitue des comportements, lorsqu'on essaie de trouver le sens de ce qui se passe. Et là, ça devient plus fascinant, notamment lorsque les comportements mettent en scène des relations entre différentes espèces, entre différents individus.
Voilà, donc c'est-à-dire pas simplement identifier, mais aussi découvrir ce qu'a
comprendre
vécu,
les significations,
ce qu'a vécu
exactement.
L'animal.
Ouais.
Mais est-ce qu'on part, quand on va suivre les animaux, est-ce qu'on part avec l'idée qu'on va suivre tel ou tel animal, un loup, un ours, etc. Ou bien est-ce qu'on se laisse porter par ce qu'on trouve sur le terrain?
Nous, on est un petit peu méthodique, donc on essaie quand même de trianguler des endroits où on a plus de chances de trouver des traces de l'animal qu'on cherche. Parfois, on va chercher du lynx spécifiquement dans le Jura ou dans le massif du Vuache. Parfois, on va chercher de l'ours spécifiquement dans les Pyrénées. Mais après, ce qui est fascinant, c'est un naturaliste qui nous emmenait observer des cachalots qui disait ça. C'est qu'il dit, C'était pour nous consoler quand on passe 10 heures en mer et qu'on voit rien. Il dit c'est la nature qui décide. Et donc la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher quelque chose et on trouve autre chose. Et il faut être capable de se rendre sensible à la multiplicité des indices pour finalement suivre un animal qu'on n'était pas du tout venu chercher.
Mais concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire, vous, d'abord, on apprend comment à pister. Vous partez avec un guide, avec, vous avez appris avec des cours, des pisteurs, des chasseurs, etc.
Concrètement, comme tout le monde et comme tout maintenant, on apprend grâce à Internet et grâce au manuel, grâce au guide. Oui, l'essentiel, c'est pas de... Je dirais, c'est pas d'être un expert, c'est de commencer à emprunter ce chemin dans lequel on se rend sensible aux signes. Et ensuite, essayer de décrypter.
Et quand vous dites « nous », c'est-à-dire vous partez avec un naturaliste...
Nous, on est un groupe d'amis. Nous, on est un groupe d'amis qui sont un petit peu, très... qui passent pas mal de temps à ça, la plupart de nos week-ends et de nos vacances, et il y a une sorte d'émulation entre nous, parce que ça nous fascine.
Vous avez appris par vous-même, en fait, sur le tas, en fait.
J'ai appris les bases avec les naturalistes, et puis ensuite, oui, j'ai appris sur le tas, mais tout le monde peut apprendre sur le tas, c'est pas du tout difficile.
Écoutons cet extrait sonore qui devrait également vous évoquer quelques souvenirs.
Le léopard des neiges. C'est une de ces créatures mystérieuses et mythiques, un félin. Si rarement observé qu'on connaît très peu de choses sur son mode de vie. Il s'agit là d'une des espèces les plus rares au monde, moins de 4 individus sur une centaine de kilomètres carrés. Il n'y a tout simplement pas assez à manger ici pour qu'ils y vivent plus nombreux. Ils mènent une existence solitaire. Néanmoins, ils sont parfaitement conscients de la présence de certains des leurs, car ils laissent même des traces de leur passage et des messages à leur attention. Ils se frottent à certains rochers et les aspergent d'urine. Les deux odeurs mêlées créent une signature personnalisée.
Donc, Baptiste Morisot, vous avez suivi des panthères des neiges, alors vous en avez rencontré ?
Non. Non, le fantôme des montagnes, il est surnommé. Donc, c'est des animaux qui sont extrêmement difficiles à voir. On appelle ça des animaux cryptiques.
Qui se cachent.
Qui se cachent, qui sont extrêmement discrets par nature, puisque ce sont des grands prédateurs. Et puis, ils sont aussi dans des lieux extrêmement difficiles d'accès. Hein. C'est des animaux des crêtes. Donc, leur biotope, c'est les crêtes, ce qu'on appelle les crêtes à panthères.
Vous êtes allé où, vous, dans quel pays ?
Au Kyrgyzstan, en l'occurrence, mais il y en a jusqu'en Chine et au Tibet, dans les Tian Shan, par exemple, les Monts Célestes. Donc, c'est des animaux qui vivent sur des crêtes entre 4000 et 5000 mètres d'altitude. Donc, déjà, pour aller les chercher, c'est pas du tout évident. Le guide avec qui j'y étais les pistait depuis 6 ans et il ne les avait jamais vus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le pistage, on est capable de produire une sorte d'intimité sans proximité, comme dit la philosophe Donna Haraway. C'est-à-dire on arrive, en suivant les traces, en suivant des pistes sur plusieurs mètres, parfois plusieurs dizaines de mètres, à voir un peu l'espace comme la panthère le voit, même si on ne voit pas la panthère. Et là, ce que ça nous amène à faire, c'est que bien évidemment, quand on trouve le bon endroit, donc dans une vallée glaciaire perdu au fond du Kyrgyzstan, on trouve le bon rocher où elle a déposé ses marquages, on pose des pièges photos et ça nous permet ensuite d'avoir des images et des vidéos d'elle à son passage pour les reconnaître, les compter, suivre un peu la population.
Oui, c'est même un travail de fourmi, si l'on peut dire, puisque vous dites dans votre livre, dont je rappelle le titre, sur la piste animale, c'est que ça revient à chercher un poil de panthère dans une vallée glaciaire, donc sur des kilomètres et des kilomètres, vous trouvez un seul poil et ça y est, c'est l'un.
Et oui, mais ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est que si on regardait les choses au hasard, on pourrait absolument rien trouver. Mais par contre, tout le travail du pistage ici consiste à observer la vallée comme une panthère la regarderait. Il s'avère que les panthères s'envoient des messages, comme c'est bien dit dans le reportage, c'est-à-dire elles se signifient un peu une sorte de passeport biométrique et par des marquages. Et pour que ces marquages durent, il faut qu'elles les mettent dans des endroits qui ne sont pas battus par les intempéries. Et donc, elles vont choisir des rochers en dévers qui sont localisés à des carrefours. Et donc, assez vite, on finit par trouver ces rochers, par savoir à quel endroit il faut aller. Et c'est là qu'on trouve parfois, presque à coup sûr, ces fameux marquages.
Oui, il faut vraiment se mettre dans la tête de l'animal. Alors, bien sûr, on imagine qu'on remonte les traces, les empreintes sur le sol, mais il y a aussi les traces sur les arbres, les poils, les traces traces donc de grattage, mais aussi évidemment les excréments, puisque ce sont des marquages extrêmement présents.
Absolument.
Donc ça veut dire qu'il faut savoir lire dans une crotte, finalement, c'est ce que vous faites aussi.
Oui, oui, c'est vrai que c'est assez bizarre cette affaire, parce que pour nous, nous on est des primates, comme vous le savez, on appartient à la famille des primates, et les primates ont un rapport très méprisant à leur propre déjection. Mais chez les carnivores, c'est très différent. Les carnivores ont donné une fonction très noble à leurs excréments, qui est une fonction, je dirais, géopolitique, qui est celle du drapeau. L'excrément, c'est un drapeau, ça signifie qui habite ici et quelle est la limite de son territoire. Et c'est aussi un blason dans lequel il y a l'identité du porteur, même dans son absence.
Mais les animaux eux-mêmes, avec l'odorat, arrivent à lire ce qu'il y a dans l'excrément.
Absolument.
Alors que nous...
Nous, on en est très peu capables, je suis d'accord. Non, non,
voilà,
en effet, et j'ai jamais essayé, je vous l'avoue.
Voilà, mais alors qu'est-ce que vous lisez dans une déjection?
Nous, ce qu'on lit, c'est deux choses. D'abord, c'est l'identité donc de l'espèce, pas de l'individu, parce qu'on ne peut pas aller au-delà, donc on peut discriminer l'espèce. D'ailleurs, la plupart du temps, pour les canidés, c'est la manière la plus efficace de discriminer, de savoir qui est là. Et puis ensuite, ça nous permet de comprendre justement les frontières, les territoires, la manière dont les différents individus et les différentes meutes partagent l'espace, minimisent l'agressivité mutuelle entre eux, et puis dialoguent même entre espèces. Ça, on l'a vu, c'est, même dans les Alpes, c'est assez fascinant. On voit des marquages de loups qui signifient des limites territoriales, mais il y a des renards qui dialoguent en posant des laissés à côté, et puis il y a aussi des mustélidés, comme des martres, qui dialoguent.
Ils dialoguent avec leurs excréments, leurs déjections.
Absolument. Et c'est très bizarre pour les primates.
Les
chez nous, ça ne fait pas vraiment sens. Mais pour les carnivores, c'est un mode de communication extrêmement élaboré.
Puisque les herbivores ont plutôt intérêt à se cacher, en fait.
Oui, et puis parce que non, le problème ne se pose pas vraiment comme ça pour les herbivores. Il n'y a pas de marquage territorial. Un peu pour le chevreuil, mais pour la plupart des herbivores, il n'y a pas de marquage territorial.
Nous sommes avec le philosophe Baptiste Morisot sur la piste animale. Donc Baptiste Morisot, vous avez pisté beaucoup d'animaux, notamment ceux-ci avec lesquels nous embarquons, avec Noga, les loups.
Vers nos forêts, ils pourraient vivre près des villes. Le titre accroche, c'est parfait. Ils sont si beaux, on imagine, avec l'air des grands espaces, l'intensité d'un regard pur. Le piano d'Hélène les trace sur la neige parfum de nature.
Baptiste Morisot, les loups, vous connaissez bien puisque vous y avez consacré un ouvrage, hein, Les Diplomates. Alors pourquoi ce titre, Les Diplomates?
Mais parce que Je voulais être un petit peu provocateur, je m'en rends compte a posteriori, à l'égard de l'idée très occidentale sur laquelle on est voué à entretenir des rapports de force avec les animaux et en particulier avec les grands carnassiers, qui sont censés incarner une sorte de férocité sauvage et à qui on pourrait répondre que par des coups de fusil ou en les parquant. Moi, ce qui me fascine, c'est que quand on regarde d'un peu près les relations entre les animaux eux-mêmes, on se rend compte que même les grands prédateurs communiquent tout le temps entre eux, même entre espèces, et ils se signifient des limites réciproques dans leur territoire. Et ils minimisent constamment l'agressivité mutuelle. Je me souviens d'une scène au parc national de Yellowstone où j'ai vu un grizzly, une meute de loups, un couple de coyotes et un grand aigle se partager une carcasse de bison sans violence, sans la moindre violence, et ça m'a fasciné en fait cette scène. Je me suis dit, mais c'est intriguant, si eux-mêmes entre eux, les grands prédateurs, sont capables de maintenir une forme de concorde minimale, ça veut dire que nous aussi, on doit être capable de communiquer avec eux, et même si ça se fait vigoureusement, de leur signifier des limites et des interdits sans avoir forcément à leur tirer dessus et à les mettre à mort.
Voilà, qui nous ramène justement à la philosophie. Alors, dans votre livre, il y a aussi un message philosophique qu'on peut tirer du rapport avec les animaux. Vous appelez ça la leçon de la peur. Il s'agit d'une anecdote racontée par une biologiste qui était capturée par un crocodile dans une rivière. Alors, elle a réussi à s'en sortir par la philosophie. Racontez-nous cela.
Attaquée, en tout cas. Val Plumeau, qui est plus une philosophe écoféministe qu'une biologiste, qui est une très grande philosophe, extraordinaire penseuse, et qui a des pratiques naturalistes, et qui un jour, dans le parc national du Kakadu, en effet, en Australie, se fait attaquer alors qu'elle était sur un canoë, par un crocodile, qui plusieurs fois l'entraîne sous l'eau en la saisissant par l'entrejambe et lui fait subir ce fameux tourbillon par lequel les crocodiles...
Donc là, on est mal. Hein, quand on est sous l'eau, attrapé par un crocodile, ouais. Dans la gueule d'un crocodile qui nous fait tourner, on est très mal.
Eh bien, probablement. J'ai eu la chance d'y échapper. Mais ce qui est fascinant avec ce personnage de Val Plumeau, c'est que en fait, elle va très vite, donc elle va en réchapper. Elle va réussir à comprendre ce qui se passe. Elle va trouver un moyen, je vous laisse le découvrir, de faire en sorte que le crocodile la laisse tranquille. Elle va se laisser filer le long du courant.
Plutôt que de se débattre, en fait, finalement.
Plutôt que se débattre. Elle comprend qu'en fait, dès qu'elle se débat, ça incite les comportements de prédation du crocodile. Et dès qu'elle arrête de se débattre et qu'elle se laisse filer, ce qui exige un très grand courage, ici le lâcher prise exige un très grand courage, et un courage ce que j'appelle diplomatique, c'est-à-dire qu'il faut en même temps une sorte de décentrement empathique pour comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre, alors même que c'est un crocodile, ce qui ne doit pas être évident tous les jours. Et en l'occurrence, elle réussit à survivre, ensuite elle marche jusqu'à un poste de ranger en utilisant ses compétences et ses connaissances de survivaliste, et puis très vite elle donne une interprétation philosophique assez profonde de cette affaire, et elle dit en fait que en fait elle réagit au fait que les rangers qui la récupèrent veulent se venger sur le crocodile. Le problème, c'est qu'elle leur dit « Non, mais ici, il y avait 50 crocodiles dans la rivière, ça sert à rien de tirer au hasard, vous ne trouverez jamais le bon. » Elle dit « Ça peut avoir du sens si un animal devient dangereux, bien évidemment, de le mettre hors d'état de nuire, mais là, vous ne voulez pas faire ça, vous ne le retrouverez jamais, vous voulez venger un tabou. » Et ça lui fait découvrir quelque chose d'assez profond, c'est cette idée que, d'après elle, la culture occidentale a développé un tabou à l'égard du fait d'être de la viande, à l'égard du fait que les humains...
Et ça nous ramène justement à notre condition aussi d'animaux. Changeons de sujet, puisque quand on suit les animaux, tous les sens sont mobilisés. Et justement, écoutons ici un chant d'oiseau. Baptiste Morisot, cet oiseau, est-ce que vous le reconnaissez ?
Est-ce que c'est le... C'est un rouge-queue ?
Oui, c'est un rouge-queue à front blanc. Alors, cet oiseau, vous en parlez également, puisque son chant peut être utile quand on veut justement entrer en relation avec ce monde vivant par tous les sens.
Ce qui m'intéresse avec cet oiseau en particulier, donc le rouge-queue à front blanc, c'est que j'ai appris récemment quelque chose d'assez fascinant. J'écris dans le livre, et dans les deux livres d'ailleurs, cette idée selon laquelle les humains sont des animaux particulièrement diplomates. Parce que nous avons hérité de capacités à nous mettre à la place des autres, à par empathie, à lire et à interpréter les comportements des autres. Mais il s'avère que d'autres animaux ont aussi des capacités diplomatiques. Le rouge-queue à front blanc, c'est un oiseau migrateur qui va migrer dans le sud du Sahara. Et il s'avère que là-bas, il est capable d'apprendre les chants des oiseaux autochtones pour négocier des limites territoriales avec eux. Donc ça me fascine, ces capacités qu'ont les animaux aussi de négocier des modus vivendi entre eux par des apprentissages.
Et donc c'est aussi un message philosophique. Un grand maître aussi auquel vous faites référence, c'est l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Et écoutons cet extrait dans lequel il définit ce qu'est un mythe.
Un mythe, c'est une histoire qui se passe à une époque où les humains et les animaux n'étaient pas encore des êtres distincts. Et tous les mythes, au fond, expliquent comment cette séparation s'est produite. Et à la suite de cette séparation fondamentale, capitale, enfin instauratrice, comment se sont produites d'autres séparations de moindre ampleur jusqu'aux problèmes de la vie quotidienne et du monde dans lequel vivent les gens.
Donc cette phrase, hein, et vous la recitez dans votre livre, hein, un mythe, c'est une histoire du temps où les hommes et les animaux n'étaient pas encore distincts. Donc nous sommes des animaux, mais le mythe fait référence à un autre temps alors. Hein.
Oui. Ce qui me fascine dans cette définition de Lévi-Strauss, c'est cette idée que dans les cosmologies qu'on va dire animistes ici, il y a l'idée que la communication reste possible parce que à l'origine, il y avait une forme d'indistinction. Et il y avait une langue commune, par exemple. Et donc, tout le temps du mythe, c'est le temps dans lequel la spéciation va avoir lieu, les formes vont se séparer, mais ensuite, il faut trouver des moyens de continuer à communiquer. Et ça m'inspire beaucoup, cette affaire, parce que je pense que nous héritons d'une culture dans laquelle on croit qu'on ne peut plus communiquer avec les autres formes de vie. Et je crois que c'est une construction assez fantasmatique de la modernité, et que de ce point de vue-là, il vaut mieux s'inspirer de l'animisme que de notre héritage, parce qu'il est beaucoup plus près de la vérité.
Alors justement, puisque nous parlons d'animisme, vous questionnez aussi le mot « nature ». Ce mot paraît banal, hein. Nous disons cela même quand nous partons au week-end, nous allons dans la nature, il est devenu banalisé. Et pourtant, vous dites que ce mot, eh bien, il est marqueur d'une civilisation qui est vouée à exploiter massivement les territoires vivants et qu'il faut apprendre à déconstruire l'idée du mot « nature ».
Oui, c'est vrai que ça, c'est un projet philosophique qui peut paraître un petit peu bizarre et ambitieux, mais qui m'anime beaucoup. Moi, je ne peux plus utiliser ce mot, en fait.
Ah, vous dites quoi, alors, quand vous partez en week-end ou... Alors, je ne vais pas dans la nature,
Je trouve d'autres mots,
exemple.
Je me débrouille. Dans le livre, j'évoque toute une série de formules dans lesquelles, justement, par lesquelles on essaie de s'émanciper de ce mot. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi il faut s'en émanciper.
Pourquoi il gêne? Pourquoi il est gênant, ce mot nature?
Parce que les mots ont une histoire et que ces histoires, je dirais, sont très puissantes. L'histoire du mot nature, c'est quand même, si on se réfère aux 4 siècles de modernité dont on hérite, c'est l'histoire d'une grande séparation, d'un grand partage dans lequel il y a la culture et la société d'un côté, où nous entretenons des relations sociales simplement avec les humains, et de l'autre côté, il y a un dehors qu'on va appeler la nature, et qui se définit précisément comme une réserve de matière à portée de main ou des lieux de ressourcement spirituel et de performance sportive. Mais dans tous les cas, c'est un lieu avec lequel on ne peut pas entretenir de relations sociales. C'est un lieu qui est mis à distance.
Justement, vous citez des contes, notamment, il y a un conte que vous citez, je crois, racontez-nous alors. Ou dit « je ne savais pas qu'il était dehors ».
Ah oui. Oui, c'est une parabole zen qui me fascine. C'est un moine qui est sous la pluie, sous une pluie battante, sur le pas de la porte d'un temple, et un moignon derrière lui ouvre la porte et lui dit « Mais rentrez, vous allez attraper la mort ». Et le moine le regarde et lui dit « Tiens, mais j'avais pas réalisé que j'étais dehors ». Et ça me fascine, cette affaire, parce que j'ai l'impression que il s'agit en fait de se diriger dans cette direction, dans une direction dans laquelle on désapprend ce grand partage dans lequel on a inventé un dehors qui est la nature et on reconstitue des relations sociales avec cet univers-là.
Ça sous-entend qu'on est séparé de la nature. Vous dites justement que l'idée de nature n'existe pas chez les Amérindiens.
Ouais.
Il n'y a pas de séparation.
C'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Descola, et d'ailleurs c'est le grand anthropologue du collègue de du Collège de France, et qui, en 2005, dans ce livre « Part de la nature et culture », a révélé cette idée très puissante sur laquelle la nature, c'est la construction d'une civilisation bien particulière qui est la nôtre, et c'est un fétiche. Et c'est un fétiche qui nous permet d'avoir des rapports au monde vivant qui sont d'ailleurs toxiques pour lui. Et il n'est pas du tout arbitraire de penser que la crise écologique trouve en partie son origine dans le fait que nous croyons que la nature, ça existe.
Donc l'idée de ce mot nature, c'est qu'on regarde finalement le paysage hein, comme quelque chose, comme un spectacle, mais nous en sommes privés d'une certaine façon.
Exactement.
Et au Québec, on ne dit pas on va dans la nature, mais on dit qu'on s'enforeste.
Mais j'aime bien cette formule. C'est pas au Québec en général, c'est les coureurs des bois. C'est une vieille formule donc d'anciens français. Et les trappeurs qui allaient hiverner dans la forêt disaient, quand ils quittaient les villages, je vais m'enforester. C'est beau cette formule parce que le pronominal permet de penser qu'il ne s'agit pas simplement d'entrer dans la forêt, mais il s'agit aussi de laisser la forêt emménager en soi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous ne sommes plus les maîtres, mais nous sommes des éléments parmi d'autres, comme les autres animaux.
Nous sommes des éléments, on se transforme mutuellement, on entre dans des relations pas forcément égalitaires parce que ça veut rien dire, mais des relations sociales dans lesquelles on partage des significations, dans lesquelles on peut communiquer. Je crois que c'est des formes de relations qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressantes pour sortir de la situation de crise qui est la nôtre.
Pour pister les animaux, pas besoin d'aller dans les steppes ou les montagnes lointaines. On peut le faire aussi en ville et même sur des animaux qui ne sont pas du tout spectaculaires comme les vers de terre. Écoutons cette chanson des cow-boys fringants, les vers de terre.
Jamais dans le tunnel été comme hiver, ils avancent comme des automates dans une conformité triste et plate. Font leur job sans se poser de questions, au labour ou ben au bout d'un hameçon, enrichissant celui qui tient la ligne, comme en toutes les conneries qu'on leur a dit. Et comment on s'emmerde chez les lombriques, où l'ennui est devenu pathologique, on leur donne des bébelles, des somnifères, la vie en 140 s'ils sont bien conscients de ce non-sens, bien peu vont se déroger de la cadence, comme un immense ballon qui se dégonfle. On ne réveille pas le confort qui ronfle. Et devant l'échec de leur existence, l'envie et la médisance les étranglent, l'angoisse leur serre le cœur comme une sangle.
Autour de la question sur la piste animale avec le philosophe Baptiste Morisot pour le livre qu'il vient de publier chez Actes Sud, intitulé justement « Sur la piste animale ». Donc, Baptiste Morisot, cette chanson, alors, des cow-boys fringants sur les vers de terre, je vous rappelle les paroles si vous ne les avez pas bien entendues, mais je suppose que vous n'allez pas être tout à fait d'accord, puisque ils disent que les vers de terre avancent comme des automates dans une conformité triste et plate. Vous, c'est pas comme ça du tout que vous voyez les vers de terre.
Non, en effet. Non, mais... alors, dans le livre, j'écris un chapitre qui s'appelle « Cosmologie du lombric ».
Oui, vous passez des panthères des neiges aux ours et aux loups et vous arrivez sur les lombrics, c'est-à-dire les vers de terre.
Oui. Je trouvais que c'était vraiment
quel
important.
Entre ces animaux.
Eh bien, je voulais restituer l'idée que le pistage, c'est pas du tout une sorte d'aventure exotique où on a besoin d'être au fin fond de la forêt pour découvrir des choses et que c'est une forme d'attention. C'est une qualité de disponibilité aux autres formes de vie. Et donc... On n'a pas besoin de s'indianiser pour pister, il suffit de se rendre sensible. Et on peut le faire avec un potager agroécologique ou permacole sur un balcon, et on peut le faire, et là c'est un petit peu ce sur quoi je travaille dans ce chapitre, avec le lombricomposteur, avec les formes de vie qui habitent le lombricomposteur.
Mais là vous ne les suivez pas à la trace comme des ours, mais simplement vous les regardez en fait.
Le problème c'est de penser le pistage de manière philosophiquement enrichie comme une capacité à comprendre la perspective que les autres formes de vie ont sur un environnement partagé, comprendre comment ils vivent, à comprendre...
C'est du pistage philosophique en fait que
voilà,
vous faites.
Voilà, c'est du pistage philosophique et là c'est assez intéressant pour les lombriques parce que les lombriques vous apprennent plein de choses de ce point de vue-là. Vous êtes obligé de voir un peu le monde par leurs yeux, ne serait-ce que pour cohabiter décemment avec eux. Par exemple, les lombriques, c'est quelque chose d'assez intriguant à savoir, respirent par la peau. Et conséquemment, on vous apprendra toujours, quand vous avez un lombricomposteur, qu'il ne faut surtout pas mettre de liquide huileux dans un lombricomposteur, parce que sinon, vous les empêchez de respirer. Là, typiquement, c'est ce type d'habitude, c'est ce type de compréhension des autres formes de vie qui me fascine, parce que je crois que c'est elles qui pourraient nous permettre de partager la Terre avec d'autres espèces de manière un peu plus raisonnable.
Oui, et puis c'est aussi un miroir de notre comportement, puisque vous dites que si les lombriques vont pas très bien, c'est-à-dire vous avez sur votre balcon un potager, vous avez un sac de compostage, vous mettez vos déchets et dedans il y a des vers de terre et s'ils vont mal, ces vers de terre, c'est le signe que vous-même, vous avez mal mangé finalement.
Oui, parce qu'en fait, comme on les nourrit des déchets de végétaux frais, on se rend compte que quand on les a mal nourris, c'est parce qu'on a mangé trop de plats préparés. Donc, ils nous rappellent à un bon régime.
Voilà, si vous voulez prendre soin de vos vers de terre, il faut d'abord prendre soin de vous.
C'est ça, c'est ce que j'appelle les alliances improbables entre les vivants et les humains.
Et donc, ce monde sauvage, pas besoin d'aller au bout du monde pour le trouver, mais on peut le trouver en regardant simplement un pot de
Absolument,
terre.
Absolument, mais partout, même ici, même à Paris, figurez-vous.
Et oui, comment à Paris, alors, en regardant simplement...
Il y a deux semaines, j'étais à la Châtelet-Léal, et il y avait énormément de gens en train de prendre l'apéro, jusqu'à ce que déboule un faucon cresserelle. C'était assez intriguant comme scène.
Oui, il y a des faucons au cœur de Paris, effectivement.
Qui nichent.
Et les gens l'ont remarqué ou vous étiez
seul
à le
voir ? Il ne me semble pas, non. Mais bon, si, certainement quelques-uns, il y a des naturalistes partout.
Ouais. Alors, vous abordez aussi une théorie plus biologique, selon laquelle un certain nombre de qualités humaines, la patience, etc., le don d'observation, etc., seraient dues au fait que nos ancêtres se sont mis à pister des animaux.
Ouais.
Alors, comment ça ?
Assez simplement, ce qui me fascine dans cette affaire, c'est l'idée que les humains ont tendance à attribuer leurs qualités les plus hautes, les plus nobles, à, je dirais, une sorte de différence, une sorte de propre de l'humain. Et en fait, quand on regarde bien notre histoire évolutive, on peut raconter l'histoire différemment et se rendre compte que nos puissances, nos capacités les plus fascinantes proviennent la plupart du temps de capacités animales. J'évoquais la question de l'apparition de l'intelligence humaine. En théorie de l'évolution, ça s'appelle le paradoxe de Wallace. Wallace, c'est un évolutionniste qui disait... En fait, on n'a pas besoin d'être capable de faire des mathématiques ou de la philosophie pour survivre. Donc, l'intelligence doit venir d'ailleurs que l'évolution. Mais en fait, si vous vous rendez compte qu'on a eu besoin de pister pendant 2 millions d'années survivre, et que le pistage exige beaucoup d'intelligence, on peut comprendre l'origine de l'intelligence dans l'évolution.
C'était passionnant pour nous avoir indiqué comment le pistage est un moyen de faire de la philosophie. Donc, pour votre livre intitulé « Sur la piste animale » publié aux éditions Actes Sud, Baptiste Morisot, merci.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
C'était Autour de la question avec Capoline Verlon-Raison à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre fidélité. Restez curieux et dans quelques instants, les infos sur RFI.